Les 21 jours d'un neurasthénique, chapitre 19. Nous avons dîné hier chez Triceps. Dîner offert en l'honneur de son ami et protecteur, le docteur Trépan. Il y avait 10 convives, tous riches, tous heureux. Durant le repas, et après le repas, nous n'avons naturellement parlé que de la misère humaine. C'est une sorte de joie sadique qu'ont les riches de pleurer, après boire, et quand ils sont bien gorgés de sauce, sur les pauvres. Il n'y a rien comme les mets abondants et épicés, les vins rares, les fruits merveilleux, les fleurs et les argenteries, pour nous inspirer des émotions socialistes. La discussion, commencée dans la philosophie, a peu à peu dégénéré en anecdotes, et chacun a raconté son histoire. L'un, un écrivain connu, gros homme, rouge et lipu, à oreilles cornues de faune, dit « L'avenue de Clichy à 1 heure de la nuit. Il pleut, la boue grasse du pavé rend la marche difficile et glissante. L'avenue est presque déserte. De rares passants passent, la figure enfouie dans les collets relevés des paletots. De rares fiacres roulent à vide, ou bien emportent on ne sait quoi vers on ne sait où. De rares femmes arpentent les trottoirs qui luisent comme de pâles lumières sous la lune. « Monsieur, monsieur, venez chez moi !» Appel mêlé de jurons obscènes et de menaces. Puis des silences et des fuites et des retours. Cela vient, tourne, s'efface, disparaît, revient et s'abat, ainsi que des corbeaux sur un champ où il y a une charogne. De place en place, il ne reste d'ouvert que des boutiques de marchands de vin, dont les devantures allumées, trous de clarté jaune, la masse d'ombre des maisons endormies. Et des odeurs d'alcool et de musc, crime et prostitution, circulent dans l'air par bouffées fraternelles. « Monsieur, monsieur, venez chez moi !» Depuis 5 minutes, une femme me suit, que je ne vois pas, et dont j'entends seulement, derrière moi, le piétinement obstiné et la voix qui chuchote ce monotone et suppliant refrain. « Monsieur, monsieur, venez chez moi !» Je m'arrête sous un réverbère. La femme aussi s'arrête, mais en dehors du rayonnement lumineux. Je puis néanmoins l'examiner. Elle n'est point belle, ah non, ni tentante, et elle repousse de toute la distance de son navrement l'idée du péché. Car le péché, c'est de la joie, de la soie, du parfum et des bouches fardées, et des yeux en délire, et des cheveux teints, et de la chair parée comme un autel, lavée comme un calice, peinte comme une idole. Et c'est aussi de la tristesse riche, du dégoût opulent, du mensonge somptueux, de l'ordure en or et en perles. Elle n'a rien de tel à m'offrir, la malheureuse, vieille de misère plus que d'âge, flétrie par la faim ou les lourdes ivresses cuvées dans les bouges, déformée par l'effroyable labeur de son tragique métier, obligée, sous la menace du coup de couteau, de marcher toujours dans la nuit, vers le désir qui rôde et qui cherche, renvoyée du souteneur qui la dépouille au policier qui la rançonne, du garni à la prison. Elle est douloureuse à voir. Un léger caracou de laine recouvre sa poitrine. Des jupons boueux lui battent aux jambes. Un immense chapeau la coiffe, dont les plumes fondent sous la pluie. Et sur son ventre, elle tient ses mains croisées, deux pauvres mains rougies de froid. Oh, pas obscène ! deux pauvres mains maladroites de froid et noueuses que d'antiques mitaines gantent jusqu'aux doigts. N'était l'heure, le lieu et l'accent de son appel, je la prendrais pour quelque servante sans place, et non pour une rôdeuse de trottoir. Sans doute, elle se méfie de sa laideur. Elle a conscience du peu de volupté qu'offre son corps, car elle s'efface de plus en plus sous mon regard. Elle interpose des ténèbres et des ténèbres entre son visage et moi. Et, semblant demander l'aumône, plutôt que d'offrir du plaisir, c'est d'une voix timide, tremblante, presque honteuse, qu'elle répète « Monsieur, monsieur, venez chez moi. Monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. Monsieur, monsieur. » Comme je ne réponds pas, non par dégoût ni dédain, mais parce que, dans l'instant même, je regarde avec compassion un collier de corail qui lui entoure le cou d'une ligne rouge sinistrement, elle ajoute, tout bas, sur un ton de plus douloureuse imploration, « Monsieur, si vous aimez mieux, monsieur, j'ai chez moi une petite fille. Elle a 13 ans, monsieur, et elle est très gentille, et elle connaît les hommes comme une femme. Monsieur, monsieur, je vous en prie, venez chez moi. Monsieur, monsieur. » Je lui demande, « Où demeures-tu ? » Et vivement, me désignant une rue, en face, qui s'ouvre sur l'avenue, en mâchoire d'ombre, en gueule de gouffre, elle répond, « Tout près, tenez, là, à 2 pas d'ici. Vous serez bien content, allez. » Elle traverse la chaussée, courant, pour ne pas donner à ma réflexion le temps de changer, à ce qu'elle croit être mon désir, le temps de se glacer. Je la suis. Ah, la pauvre diablesse! À chaque pas qu'elle fait, elle retourne la tête, afin de bien s'assurer que je ne suis pas partie. Et elle sautille dans les flaques, énorme et ronde comme un monstrueux crapaud. Des hommes qui sortent d'un cabaret l'insultent en passant. Nous nous engouffrons dans la rue, elle devant, moi derrière. Nous marchons vers quelque chose de plus en plus noir. « C'est là !» fait la femme. « Tu vois que je ne t'ai pas menti. » Elle pousse une porte seulement entrebâillée. Au fond d'un couloir étroit, une petite lampe à pétrole, dont la mèche fume et vacille, fait s'agiter sur les murs des lueurs de crime, des ombres de mort. Nous entrons. Mes pieds foulent des choses molles, mes bras frôlent des choses visqueuses. « Attends un peu, mon chéri, l'escalier est si traître. » L'assurance l'a reprise. Elle comprend qu'elle ne doit plus s'humilier, qu'elle n'est peut-être plus si laide, puisque je suis là, qu'elle me tient, qu'elle a conquis, ramené un homme. Un homme qu'il s'agit de garder par des mots de caresse, d'exciter à la générosité par des promesses d'amour. D'amour. Je ne suis plus le « monsieur » hésitant qu'elle implorait tout à l'heure. Je suis le « chéri ». L'aubaine attendue, celui qui apporte, peut-être, de quoi manger pour le lendemain, ou de quoi se payer la crapuleuse ivresse, par quoi la faim s'oublie, et tout, et tout, et tout. Elle allume un bougeoir, à la flamme tordue de la lampe, et, m'indiquant le chemin, elle me précède dans l'escalier. L'ascension est rude. La malheureuse monte avec peine, avec effort. Elle souffle, siffle et râle. De sa main libre, elle ne sait que faire, comme d'un paquet trop lourd. « Ne t'impatiente pas, chérie, c'est au deuxième. » Et la lampe est gluante, les murs suintent et suppurent. Les marches de bois craquent sous les pieds. Il faut raffermir son estomac contre les nausées, que soulèvent d'intolérables odeurs de boue ramenées avec les hommes. De crasse, dont l'humidité exaspère la virulence, de déjection mal close. Sur les paliers, à travers les portes, on entend des voix qui rient, qui crient, qui prient, des voix qui marchandent, qui menacent, qui exigent, des voix obscènes, des voix saoules, des voix étouffées. Oh, ces voix, la tristesse de ces voix en ce lieu de nuit, de terreur, de misère et de plaisir. Enfin, nous sommes arrivés. La clé a grincé dans la serrure, la porte a grincé sur ses gonds, et nous voilà dans une petite pièce où il n'y a qu'un fauteuil de reps vert, déchiré et boiteux, et qu'une sorte de lit de camp sur lequel une vieille qui dormait s'est dressée au bruit comme un spectre et me dévisage de ses yeux ronds, jaunes, étrangement fixes, et pareils à ceux des oiseaux qui veillent dans les bois la nuit. En face de la fenêtre, des linges sèchent sur une corde tendue d'un mur à l'autre. « Je t'avais dit d'enlever ça !» reproche la femme à la vieille, qui fait entendre une sorte de grommellement et retire les linges qu'elle dépose en tas sur le fauteuil. Une porte encore, et c'est la chambre. Et nous sommes seuls. Je demande « Qui est cette vieille ?»«
C'est celle qui me prête la petite, mon chéri. »«
Sa mère ?»«
Oh non, je sais pas où elle l'a prise. Je ne l'ai que depuis hier. Elle n'a pas eu de chance, la pauvre femme. Ah, vrai, elle n'est guère heureuse, elle non plus. Son fils est à la nouvelle. C'était mon amant autrefois. Il a estourbi storloger de la rue Blanche. Tu sais bien, storloger. Ses filles sont en maison et ne lui donnent rien. Faut bien qu'elle vive aussi, hein, crois-tu? Puis, seulement, elle amène la petite ici, parce que chez elle, ah, si tu voyais ça, c'est si pauvre, si pauvre. La chambre est à peine meublée et révèle une indicible détresse. Les fenêtres sont sans rideaux, la cheminée sans feu. L'humidité décolle des murs le papier qui, çà et là, retombe par plaques, ainsi que des lambeaux de peau morte. Il fait froid. La femme s'excuse. « C'est que je n'ai pas de bois ni de charbon. L'hiver est arrivé si vite. Et puis, voilà un mois que les agents sont venus. Ils m'ont emballé. Il n'y a que 3 jours qu'ils m'ont relâché, crois-tu ?» Et elle ajoute « Si seulement j'avais eu 20 francs à leur donner, ils m'auraient laissé tranquille. Ah, les chameaux! Non, là, vrai, il y en a qui demandent un bonheur, d'autres veulent de l'argent. Moi, ils me demandent toujours de l'argent. Ça ne devrait pas être permis. »
Au fond de la pièce, un grand lit s'étale, avec 2 oreillers exhaussés sur un traversin. À côté, un autre lit, plus petit, où j'aperçois, émergeant des couvertures, un ébouriffement de chevelure blonde, et dans ce blond, une mince figure pâle qui dort.
« C'est la petite, mon chéri. Mets-toi à ton aise, je vais la réveiller. Ah, tu vas voir ce qu'elle est vicieuse et adroite. Tu seras content, va.
Non, non, laisse-la.
Ah, tu sais, elle ne va pas avec tout le monde. Elle ne va qu'avec les messieurs qui sont généreux.
Non, laisse-la dormir.
Comme tu voudras, mon chéri. »
Elle n'a pas conscience du crime qu'elle me propose, et mon refus l'étonne plutôt. Lorsqu'elle voulait réveiller l'enfant, je l'ai observé. Sa main n'a pas tremblé. Elle n'a pas éprouvé au cœur cette commotion vasculaire qui fait descendre le sang et pâlir le visage.
Je lui demande « Et si la police l'a trouvée chez toi, sais-tu que c'est la cour d'assises, la maison centrale ?»
La femme fait un geste vague et elle dit
« Ah bien, qu'est-ce que tu veux ?»
Mais devant mon air grave et triste, elle a perdu confiance de nouveau. Elle n'ose point se regarder dans la glace. Elle n'ose point non plus se montrer à moi-même dans la lueur pauvre du bougeoir. Et l'eau dégoutte de son chapeau, ainsi que d'un toit mouillé. Elle a posé le bougeoir sur la cheminée, et elle est venue, près du grand lit, dans la pénombre, où elle s'apprête à se déshabiller. «
Non, lui dis-je, inutile. je ne veux pas de toi non plus. » Et je lui mets dans la main deux pièces d'or. Deux pièces d'or qu'elle tourne, retourne, soupèse et qu'elle considère ensuite d'un regard hébété sans rien dire. Moi aussi, je n'ai rien à lui dire. Et que lui dirais-je ? Lui prêcher le repentir, les beautés de la vertu ? Des mots, des mots, des mots. Ce n'est pas elle la coupable. Elle est telle exactement que l'a voulu la société, à l'insatiable appétit de qui il faut, chaque jour, apporter sa large portion d'âmes humaines. Lui parler de haine, de révolte ? À quoi bon ? Des mots encore. La misère est bien trop lâche. Elle n'a pas la force de brandir un couteau, ni d'agiter une torche sur l'égoïste joie des heureux. Mieux vaut donc que je me taise. D'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour pérorer comme un socialiste. L'heure n'est pas aux déclamations vaines, qui ne remédient à rien et ne font que montrer davantage le vide des actes dans le vide des phrases. Je suis venu pour voir, et j'ai vu. Il ne me reste plus qu'à partir. Bonsoir. » L'enfant dort toujours dans son lit, nimbé de blond. Les possessions d'un pubère ont déjà flétri sa bouche, pourri son haleine et mis des éraillures au coin de ses yeux fermés. Dans la pièce voisine, j'entends la vieille qui rôde et qui traîne ses savates sur le plancher craquant. La femme a caché ses deux pièces d'or sous le traversin et elle me dit tout bas « La vieille va être furieuse que tu n'aies pas été avec la petite. Donne-lui quelque chose pour qu'elle ne me prenne pas tout ce que tu m'as donné. C'est une méchante vieille et rosse, rosse, ah, vrai. Et puis, attends que je t'éclaire, monsieur. L'escalier est si traître. » Et voici ce que dit un autre. L'autre jour, j'avais chez moi un ouvrier menuisier qui était venu réparer ma bibliothèque. C'est un homme très intelligent et qui aime à causer. Pendant qu'il travaillait, « Est-ce que vous avez des enfants ?» lui demandai-je. « Non, » me répondit-il durement. Et après une pause d'une voix plus douce, « Je n'en ai plus. » J'en ai eu trois. Ils sont tous morts. » Il ajouta, en hochant la tête, « Ah, ma foi, quand on voit ce qui se passe, et la peine qu'on a dans la vie, ça vaut peut-être mieux pour eux qu'ils soient morts. Les pauvres petits bougres. Au moins, ils ne souffrent pas. » J'insistais un peu cruellement. « Est-ce qu'il y a longtemps que le dernier est mort ?» 10 ans, fit-il. Et depuis ? Depuis, vous comprenez que ni moi ni ma femme, nous n'en avons pas voulu d'autres. Ah non, par exemple. Je lui expliquais l'admirable mécanisme de la loi Piot, et comme quoi, étant assez mauvais patriote pour n'avoir pas ou pour n'avoir plus d'enfants vivants, il serait passible d'un impôt s'il arrivait que cette loi fût votée. Il ne parut pas très étonné, ayant pris l'habitude de considérer la vie en philosophe. « Je m'attends à tout des lois, » me dit-il sans aigreur. « Une loi, parbleu, je sais ce que c'est. Je sais que ça n'est jamais pour nous autres. Les lois sont toujours faites pour les riches contre les pauvres. Mais tout de même, celle dont vous me parlez, elle est vraiment un peu forte. » Car si je n'ai plus d'enfants, c'est de leur faute. » De leur faute ? À qui ? Mais aux autorités, à l'État, je ne sais pas moi, à tous les bons hommes qui sont chargés de fabriquer les lois, à tous ceux qui sont chargés de les appliquer. C'est bien simple et ça n'est pas nouveau. L'État, il faut lui rendre cette justice. Protège les volailles, les taureaux, les chevaux, les chiens, les cochons, avec une émulation merveilleuse et une très savante entente du progrès scientifique. On a trouvé pour ces divers et intéressants animaux des modes d'élevage d'une hygiène parfaite. Sur tout le territoire français, il existe, à ne plus les compter, des sociétés d'amélioration pour les différentes races de bêtes domestiques. Celles-ci ont de belles étables, de belles écuries, de belles volières, de beaux chenils, bien aérés, bien chauffés, et pourvus non seulement du nécessaire, mais d'un grand luxe. On les entretient dans une salubrité constante et rigoureuse, pure de tout germe malfaisant et de contagion morbide, par des lavages quotidiens, par des désinfections rationnelles, à l'acide phénique, borique, etc. Moi qui vous parle, j'ai construit des poulaillers qui sont de vrais palais. C'est très bien, je ne suis pas jaloux des soins méticuleux dont on entoure les bêtes. Qu'on les couronne même dans les concours, qu'on les prime, qu'on leur donne des sommes d'argent dans les comices agricoles, je l'admets. Selon moi, tous les êtres vivants ont droit de la protection, à autant de bonheur qu'on peut leur en procurer. Mais je voudrais que les enfants des hommes, ne fussent pas, comme ils le sont, systématiquement écartés de tous ces bienfaits bestiophiliques. Eh bien, il paraît que c'est impossible. Un enfant, ça ne compte pour rien. Cette vermine humaine peut crever et disparaître. Il n'importe. On organise même, administrativement, des hécatombes de nouveau-nés, comme si nous étions menacés d'un dangereux pullulement de l'espèce. Et les dirigeants, les maîtres de cette belle société, qui sont, sinon la cause première, du moins les continuateurs indifférents du mal qu'ils dénoncent avec un patriotisme si indigné, se plaignent amèrement du nombre sans cesse décroissant des enfants qu'ils empêchent de naître ou qu'ils tuent, sitôt nés, par les procédés les plus sûrs et les plus rapides. Car la véritable infanticide, c'est cette société si terrible aux filles mères qui ne peuvent nourrir leurs enfants. Il faut l'avoir adjuré les familles de prolifier tant et plus, ou bien les menacer de peines fiscales très sévères quand elles s'avisent enfin de rester stériles, ne voulant pas qu'ils sortent d'elles des créatures impitoyablement vouées à la misère et à la mort. Eh bien, non, on ne veut plus rien savoir. Il avait dit tout cela sur un ton tranquille, et tandis que, à califourchon sur le haut d'une échelle double, il sciait avec méthode et lenteur une planchette de bois. La planchette sciée, il se croisa les bras et me regarda en hochant la tête. « Voyons, monsieur, » fit-il, « est-ce pas vrai ce que je dis là? Et qu'est-ce qu'ils nous chantent avec leur sacré dépopulation? Quand tous ces beaux farceurs auront fait leur examen de conscience et qu'ils auront reconnu loyalement que le mal n'est pas en nous, mais dans la constitution même de la société, dans la barbarie et dans l'égoïsme capitaliste des lois qui ne protègent que les heureux. Alors, on pourra peut-être causer. D'ici là, nous continuerons à jeter au vent qui la dessèche, la graine humaine et les germes de vie. Qu'est-ce que cela me fait, à moi, la richesse et la gloire d'un pays où je n'ai qu'un droit, celui de crever de misère, d'ignorance et de servitude? Je lui demandai alors pourquoi et comment ces trois enfants étaient morts. « Comme ils meurent tous, ou presque tous, chez nous, » me répondit-il. « Cette histoire est courte et c'est l'histoire de tous mes camarades. De l'une à l'autre, la forme de misère peut varier quelquefois, mais le fond est le même. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu trois enfants. Tous les trois, ils étaient sains, forts, bien constitués, aptes à vivre une bonne vie, je vous assure. Les deux premiers, nés à 13 mois de distance l'un de l'autre, sont partis de la même façon. Chez nous, il est rare que la mère puisse nourrir de son lait sa progéniture. Alimentation mauvaise ou insuffisante, tracas de ménage, travail, surmenage, enfin, vous savez ce que c'est. Les enfants furent mis au biberon. Ils ne tardèrent pas à dépérir. Au bout de 4 mois, ils étaient devenus assez chétifs et malades pour nous inquiéter. Le médecin me dit « Parbleu, c'est toujours la même chose. Le lait ne vaut rien. Le lait empoisonne vos enfants. » Alors je dis au médecin « Indiquez-moi où il y a du bon lait et j'irai en acheter. » Mais le médecin secoua la tête et il répondit « Il n'y a pas de bon lait à Paris. Envoyez votre enfant à la campagne. » Je confiai le gosse à l'assistance publique, laquelle le confia à une nourrice percheronne. 8 jours après, il mourait. Et il mourait comme ils meurent tous là-bas, du manque de soins, de la férocité paysanne, de l'orture. Mon troisième, je le gardai à la maison. Il vint très bien. C'est vrai qu'à ce moment, ma femme et moi, nous gagnions de bonnes journées et que l'argent ne manquait pas. Il était gras, rose, ne criait jamais. Impossible de voir un enfant plus fort et plus beau. Je ne sais comment il attrapa une maladie des yeux qui régnait dans le quartier en ce temps-là. Le médecin me dit qu'il fallait le mettre à l'hôpital. Il y avait un hôpital spécial à cette maladie-là. Oh, c'est pas les hôpitaux qui manquent. Le petit guérit. Mais le jour où la mère était partie pour le ramener, elle le trouva, la mine défaite, et se tordant dans d'affreuses coliques. Il avait gagné la diarrhée infantile. On ne le soignait d'ailleurs pas. La mère s'en étonna. Un espèce d'interne qui se trouvait là dit « On ne soigne ici que les maladies des yeux. Si vous voulez qu'on le soigne pour la diarrhée, emmenez-le dans un autre hôpital. » La mère eut beau prier, supplier, menacer, ce fut en vain. Elle prit son pauvre enfant dans ses bras pour le conduire dans un hôpital qu'on lui désigna. Il passa durant le trajet. Et voilà. Et on vient me dire encore « Faites des enfants, nom de Dieu! Faites des enfants !» Ah non, je sors d'en prendre. Et haussant les épaules, il dit d'une voix plus forte « Ils sont épatants, ces beaux messieurs. Au lieu de chercher des trucs pour augmenter la population, il ferait bien mieux de trouver le moyen d'augmenter le bonheur dans la population. Oui, mais ça, il s'en fiche. » Quand il eut fini son ouvrage, il considéra les volumes rangés sur les rayons de la bibliothèque. « Voltaire, fit-il, Diderot, Rousseau, Michelet, Tolstoï, Kropotkin, Anatole France. Ouais, tout ça, c'est très beau. Mais à quoi ça sert-il? L'idée d'or dans les livres. La vérité et le bonheur n'en sortent jamais. » Il ramassa ses outils et s'en alla. Triste, triste. Un troisième, qui était un propriétaire foncier de Normandie, raconta. Le père Rivoli a un mur. Ce mur longe une route et il est fort délabré. Les pluies et la pioche du cantonnier en ont miné la base. Les pierres des chaussées ne tiennent plus guère et des brèches s'ouvrent. Il est pourtant joli, avec son aspect de vieille ruine. Quelques iris en couronnent le faîte. Des linaires, des capillaires, des joubarbes poussent dans les fentes. Quelques pavots aussi se pavanent, frêles, entre les interstices des moellons. Mais le père Rivoli n'est pas sensible à la poésie de son mur, et après l'avoir longuement examiné, après avoir fait remuer les pierres branlantes comme les dents dans la mâchoire d'un pauvre homme, il se décide enfin à le réparer. Il n'a pas besoin du maçon, car il a fait tous les métiers dans sa vie. Il sait battre le mortier comme il sait raboter une planche, forger un bout de fer, équarrir un chevron. Et puis, le maçon, ça coûte cher, et ça n'avance pas dans le travail. Le père Rivoli achète un peu de chaux, un peu de sable, réunit sur la route au pied de son mur quelques moellons trouvés dans son clos, et le voilà qui se met en train de travailler. Mais à peine, un matin, a-t-il lancé une demi-truellée de mortier pour boucher le premier trou et caler la première pierre, que tout à coup, derrière lui, il s'entend héler d'une voix sévère. « Eh bien, père Rivoli, qu'est-ce que vous faites là ?» C'est l'agent voyer en tournée matinale. Il porte sur son dos une carnassière bondée d'instruments de géométrie et sous son bras deux nivellettes peintes en blanc et en rouge. « Ah ah !» dit-il de nouveau après s'être campé sur la berge en statut terrible du règlement administratif. « Ah ah ! À votre âge, on se met encore en contravention. Voyons, qu'est-ce que vous faites là ?» Le père Rivoli s'est détourné et il dit « Eh bien, je répare mon mur. Vous voyez qu'il fout le camp de partout ?»«
Je le vois, » répond l'agent voyer. « Mais avez-vous une autorisation ?»
Le père Rivoli s'effare et se lève, en maintenant de ses deux mains ses reins raidis.
« Une autorisation ? Que dites-vous ? Mon mur est-il à moi ? J'ai-t-il besoin d'une autorisation pour faire de mon mur ce qui me plaît ? Le fiche par terre ou le redresser, si c'est mon idée ?
Ne faites pas le malin, vieux sacripant. Vous savez de quoi il retourne.
« Enfin !» s'obstine le père Rivoli. « C'est-y à moi, ce mur, oui ou non ?»«
Ce mur est à vous, mais il est sur la route, et vous n'avez pas le droit de réparer un mur qui est à vous et qui est sur une route. »«
Mais vous voyez bien qu'il ne tient plus debout, et que si je ne le répare pas, il va tomber comme un homme mort. »«
C'est possible, ça ne me regarde pas. » Je vous dresse procès-verbal. Primo, pour avoir réparé votre mur sans autorisation. Secondo, pour avoir également, sans autorisation, déposé des matériaux sur une voie publique. Vous en avez pour une pièce de 50 écus d'amende. Hé hé, mon père Rivoli, ça vous apprendra à faire l'ignorant. Le père Rivoli ouvre, toute grande, sa bouche édentée et noire comme un four. Mais sa stupéfaction est telle qu'il ne peut articuler une seule parole. Ses yeux virent dans leurs orbites ainsi que de minuscules toupies. Au bout d'une minute, il gémit en empoignant sa casquette d'un geste de découragement profond.
« 50 écus ! Si c'est possible, Jésus-Dieu !»
L'agent voyer continue. « Et ce n'est pas tout. Vous allez réparer votre mur. »«
Non, non, je ne le réparerai pas. Il ne vaut pas 50 écus. Il arrivera ce qui voudra. »«
Vous allez réparer votre mur, » poursuit le fonctionnaire d'un ton impératif, « parce qu'il menace ruine et qu'il endommagerait la route en tombant. Et retenez bien ceci. Si votre mur tombait, je vous dresserai un nouveau procès-verbal, et vous en auriez cette fois pour 100 écus d'amende. »
Le père Rivoli s'affole. « Pour 100 écus ? Ah, malheur ! Dans quel temps est-ce que je vivons ? » ?»«
Mais auparavant, écoutez-moi bien. Vous allez, sur du papier timbré de 12 sous, demander au préfet une autorisation. »
« Je sais point écrire.
Ce n'est point mon affaire. Enfin voilà. J'ai l'œil. »
Le père Rivoli rentre chez lui. Il ne sait quelle résolution prendre. Mais il sait aussi que l'administration ne badine pas avec les pauvres gens. S'il répare son mur, c'est 50 écus d'amende. S'il ne le répare pas, c'est 100 écus. On l'oblige à réparer son mur et on le lui défend en même temps. Dans tous les cas, il est en faute et il doit payer. Ses idées s'embrouillent, il a mal à la tête. Et sentant, dans toute leur étendue, son impuissance et sa détresse, il soupire.
Et le député, l'autre jour, m'a dit que je suis souverain, que rien ne se fait que par moi et que je fais ce que je veux.
Il va demander son avis à un voisin qui connaît la loi, étant conseiller municipal.
« C'est comme ça, père Rivoli !» lui dit celui-ci d'un air d'importance. « Il faut en passer par là. Et comme vous ne savez point écrire, je veux bien vous obliger de ce petit service. Je vais vous rédiger votre demande. »
La demande est partie. 2 mois se passent. Le préfet ne répond pas. Les préfets ne répondent jamais. Ils font des vers. Ils flirtent avec les femmes de receveurs d'enregistrement. Ou bien ils sont à Paris, où ils passent leur soirée à l'Olympia, aux ambassadeurs. Chaque semaine, l'agent envoyé s'arrête devant la maison du père Rivoli.
« Eh bien, cette autorisation ?»«
Rien encore.
Il faut envoyer une lettre de rappel. »
Les lettres de rappel vont rejoindre, dans la tombe des bureaux, parmi d'inviolables poussières, la demande écrite sur papier timbré. Tous les jours, le père Rivoli guette le facteur sur la route. Jamais le facteur ne s'arrête à sa porte. Et les brèches du mur s'agrandissent, les pierres s'en détachent et roulent sur la berge, le mortier s'effrite, se soulève de plus en plus, car il est venu, pendant ce temps, une forte gelée, et les plaies gagnent, rongent de leur lèpre, ce pauvre mur à demi écroulé. Une nuit de grand vent, il s'est écroulé, tout à fait. Le père Rivoli a constaté le désastre, le matin, dès l'aurore. Dans sa chute, le mur a entraîné les espaliers du clos, qui donnaient de si beaux fruits à l'automne. Et rien ne défend plus la demeure du pauvre homme. Les voleurs et les vagabonds peuvent à toute minute entrer, poursuivre les poules, voler les œufs. Et l'agent voyer est venu terrible.
« Ah ! Vous voyez bien ce que je vous disais ? Il est tombé, parbleu ! Allons, je vais vous dresser procès-verbal. »
Le père Rivoli pleure.
« C'est-y de ma faute ! « C'est-y de ma faute, puisque vous m'avez empêché de le réparer ?»«
Allons, allons, après tout, ce n'est pas une grosse affaire. Avec les 50 écus de la première amende, ça ne vous fera que 150 écus et les frais. Vous pouvez bien payer ça. »
Mais le père Rivoli ne peut pas payer ça. Toute sa fortune est dans son clos et dans ses 2 bras. Qui font vivre son clos de leur continuelle fatigue. Le bonhomme devient sombre. Il ne sort plus de sa maison, où toute la journée il reste assis, devant l'âtre sans feu, la tête dans sa main. L'huissier est venu, 2 fois. Il a saisi la maison. Il a saisi le clos. Dans 8 jours, on va vendre tout cela. Alors, un soir, le père Rivoli quitte sa chaise et l'âtre, sans feu, redescend au cellier, silencieux, sans lumière. À tâtons, parmi les pipes de cidre vides et les outils de travail et les paniers, il cherche une grosse corde qui lui sert à rouler ses fûts de boisson. Et puis il remonte dans son clos. Au milieu du clos est un grand noyer qui étend ses branches noueuses et solides au-dessus de l'herbe, parmi le ciel, que nacrent les premiers rayons de lune. Il attache la corde à une des branches hautes, car il a grimpé dans l'arbre au moyen d'une échelle, et il est monté de fourche en fourche. Puis il noue la corde autour de son cou et se laisse tomber, d'un bloc, dans le vide. La corde, en glissant, a crié sur la branche. La branche a fait entendre un léger craquement. Le lendemain, le facteur apporte l'autorisation du préfet. Il voit le pendu qui se balance au bout de la corde, dans le clos, parmi les branches de l'arbre où 2 oiseaux s'égosillent.